J'ai des enfants aujourd'hui. C'est rare, hein. Alors, les enfants aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Surtout que demain on va, le samedi, c'est un peu compliqué, hein. C'est dur, hein. Quelquefois, c'est pas facile à comprendre, quoique, hein. C'est facile à comprendre. Hein? Et oui, parce que les autres fois, pendant 6 fois ou 7 fois, tous ceux qui sont venus ici samedi, comme vous aujourd'hui, on a essayé d'apprendre les règles. Vous commencez pas les règles, mais c'est les secrets, voilà, les secrets pour la prière. La prière, c'est... La prière. Souvent, les gens pensent que la prière, c'est facile. Il n'y a pas de secret. Mais si, il y a un secret pour la prière. Alors, ce secret, c'est fait pour ceux qui ont beaucoup travaillé, étudié... C'est pas pour les enfants, c'est un secret pour les enfants. Et justement, on est obligé d'expliquer les secrets de la prière parce que quand on commence à avoir un tout petit peu plus que, allez, 19 ans, eh bien, on ne peut plus comprendre les secrets de la prière. On ne peut plus les comprendre. Bizarre. Il y a une intelligence. Tu sais, on dit que est-ce que celui-là, qu'est-ce qu'il est intelligent? Oh, celui-là, mais alors, qu'est-ce qu'il est supérieurement intelligent, celui-là là. Hein? C'est vrai, ça se dit quelquefois à l'école, il y en a qui sont nuls, et d'autres qui sont très 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 intelligents. En fait, moi j'ai remarqué que à l'école, les maîtres, les professeurs, ils étaient incapables de savoir qui était intelligent parmi les élèves. J'ai remarqué ça. Je sais bien, parce que moi j'étais très intelligent, et les maîtres, eh ben, ils croyaient que j'étais pas intelligent. C'est la preuve. C'est là, j'avais la preuve, là. Parce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Et il y a une intelligence qui est spirituelle. Il y a une intelligence qui est humaine. Quand je dis que tu as une intelligence spirituelle, ça veut dire que tu as une intelligence humaine. Ça veut dire que tu es au-dessus de l'ordinateur. Et les maîtres, eux, ils ne voient que l'intelligence d'ordinateur. Les intelligences qui vont très vite. Tu cliques. Les intelligences d'ordinateur, ceux qui calculent vite, ceux qui mémorisent bien. Mais les intelligences humaines ne savent pas. Une intelligence d'enfant, c'est une intelligence spirituelle. Alors, à force d'avoir fait beaucoup de travail grâce aux maîtres, grâce aux professeurs de géographie, grâce aux professeurs de sciences naturelles, de biologie, de mathématiques, tout ça, pendant des années, au bout de 18 ans, eh bien, celui qui est sorti de l'école n'a plus aucune intelligence spirituelle. C'est-à-dire qu'il n'a plus aucune intelligence humaine. Alors c'est pour ça qu'on est obligé, à ceux qui sont un peu plus âgés que vous, d'expliquer des trucs tout simples, des trucs les secrets de l'intelligence normale, de l'intelligence spirituelle. Comment est-ce qu'on fait pour prier? Ah, c'est ce qu'on fait ici, là, tu vois, samedi, depuis 6-7 fois. Et la prière, tu sais, ça se fait avec justement ce qu'il y a de plus extraordinairement secret à l'intérieur de nous, de plus et de plus intelligent spirituellement. Et avec ce secret qui est au fond de nous, et ces choses très intelligentes qui sont à l'intérieur de nous, eh bien, on peut lancer comme ça et ouvrir notre cœur. Et c'est le Saint Curé d'Ars, tu vois, qu'on a fêté le 4 août, le patron des prêtres, il disait, c'est facile la prière de raison. C'est comme quand tu mélanges deux morceaux de cire, tu vois, deux morceaux de cire, comme une bougie sur une flamme, ces deux morceaux de bougie, c'est Dieu et nous qui se fondent comme deux morceaux de cire pour être ensemble un seul morceau de cire. Toute fraîche, toute chaude, toute fondue, toute confondue. Facile ça. Il y a des gens qui pensent que pour prier, il faut répéter beaucoup de prières, qu'il faut ce qui est bien, parce que c'est vrai qu'il faut faire beaucoup de prières quand on n'est pas habitué. Mais le secret de la prière, c'est quand je ferme les yeux, quand je les ouvre, et quand à l'intérieur de moi, je laisse la permission à Dieu de descendre, s'écouler à l'intérieur de moi, comme de la cire toute fraîche, pour se mélanger à moi et on forme ensemble un seul morceau de cire, une seule bougie. C'est pas du tout comme quand tu mets deux bougies à côté l'une de l'autre, tu chauffes bien et pour que ça se colle. Non, c'est pour faire une seule bougie, avec une seule mèche et une seule flamme. C'est beau ça d'être transformé en flambeau comme ça. Mais pour faire une bougie, bon, sauf aujourd'hui, à cause de ceux qui sont l'intelligence de l'ordinateur, mais avant, pour faire des bougies, il fallait prendre la cire d'abeille. Et les abeilles allaient prendre, tu vois, un centième de milligramme ici, dans une fleur, un autre centième de milligramme. Et ils faisaient de la cire comme ça. Et à force d'avoir fait de la cire, ben la cire pouvait se fondre avec un autre morceau de cire. Dieu aussi, il a fait de la cire. Avec Jésus, il a fait de la cire. Il a été prendre un petit morceau de centaine de milligrammes ici, un autre morceau. Alors, la cire de Dieu, c'est Jésus. Et ma cire à moi, c'est tous les actes que j'ai faits. C'est tous les actes que j'ai faits pour croire en Dieu, pour communier avec le plus de ferveur possible, pour me mettre à genoux, pour faire un sacrifice d'amour, pour sourire, pour lire, pour méditer, pour comprendre ce que Dieu a fait, pour être tout petit, pauvre, chaste, obéissant, humble, pour être patient, pour pardonner. Et je fais comme ça, petit à petit, je fais ma cire. Et à un moment, quand il y a suffisamment de cire, alors, on mélange les deux cires, c'est le Saint-Esprit qui fait ça, et à l'intérieur de la prière, ça y est, la transformation commence et on va faire la bougie. Jésus n'a pas voulu faire sa bougie sans nous. C'est chouette ça. Hein? Il a fait sa cire, mais il n'a pas fait la bougie. Et la prière, justement, la prière de Jésus n'existe pas sans la prière de celui qui s'est entièrement uni à lui et qui s'est laissé transformer par lui pour que soit justement la lumière de l'éternel, de la prière d'union de Jésus qui est Dieu lui-même avec Dieu, son Père. C'est beau la prière. Souvent on dit... Je me rappelle, il ne faut pas expliquer aux enfants comment on fait oraison. Il ne faut pas expliquer aux enfants comment on fait oraison, c'est pour les carmélites. C'est fait pour le sommet du sommet du sommet des plus grands saints des chrétiens. Des carmélites, c'est quand même... C'est des gens comme Saint Thérèse, les enfants Jésus, là d'accord. Mais les enfants quand même, Si, bien sûr. L'oraison, c'est d'abord pour les enfants. Il faut apprendre à faire oraison aux enfants dès l'âge de 4 ans. Il faut leur apprendre à prier, bien sûr, avant l'âge de 4 ans. Il faut leur apprendre à prier même avant qu'ils ne naissent. Même avant la naissance, la maman apprend au petit embryon à prier. À être fondu comme un morceau de cire, avec le petit mouvement tout palpitant d'amour, tout dégoulinant d'amour de Jésus dans le sein de Marie, qui se mélange avec lui, comme un seul morceau de cire, toute palpitante, lumineuse, transfigurée. La maman apprend à son enfant à prier comme ça, avant qu'il ne naisse. Toutes les mamans ont fait ça. Sinon, elles ont fait naître des cochons, des souris, mais pas des êtres humains. Un être humain, c'est un enfant de Dieu. C'est un enfant spirituel. C'est un enfant humain. Un enfant de l'homme qui ne prie pas n'est pas un être humain. C'est un être déchu. Il tombe forcément dans le péché. S'il n'est pas uni à Dieu, il lui reste plus que quoi? L'orgueil. Il se regarde lui-même. Il veut réussir. Il veut faire plaisir. Il veut qu'on considère bien. Et quand on est des enfants, je ne veux pas que mon papa et ma maman, je veux qu'ils m'aiment bien quand même. Hein. Je veux qu'ils soient fiers de moi. Mais Dieu... Donc tout est concentré sur soi, si on est un peu comme un animal, quoi. Sans la prière, on ne peut pas devenir un être humain normal, je veux dire. Parce qu'un être humain qui se regarde lui-même tout le temps, et qui cherche son bonheur sur la terre, quelle différence avec un animal? Aucune différence. Sauf qu'il a un ordinateur qui marche mieux quelquefois, c'est tout. Un être humain, c'est un être de prière. Et je sais que les enfants, je me rappelle, quelqu'un que je connais bien, qui faisait le catéchisme aux enfants. Et alors, elle disait, bon, au catéchisme, d'accord, il y a une heure de catéchisme, eh bien, on va faire 20 minutes d'oraison. Alors, toute l'année, même pendant 2 ans, 3 ans, elle faisait 20 minutes d'oraison avec les enfants. Donc, elle apprenait aux enfants à faire aux enfants. Attention, on se met ensemble, on ferme bien les yeux, on dit à Jésus d'être devant nous, il est devant nous puisqu'on est tous en train de prier, on a fait le signe de la croix, donc Jésus est là devant toi, et tu le regardes bien, et maintenant tu lui dis de rentrer bien, tu ouvres bien tes portes là, et tu lui demandes de bien rentrer au fond de ton cœur, il rentre à l'intérieur de toi, et que de la lumière à l'intérieur de lui, il ouvre ses portes, et sa lumière, tu laisses rentrer sa lumière. Allez, maintenant, tout le monde fait un silence très grand pour entendre le bruit de cette lumière. Et ça part. Et les enfants restaient en oraison pendant 20 minutes. Et il y avait bien la moitié qui finissait par connaître l'oraison extatique. Et puis après, on faisait le catéchisme. Et bien, les enfants, au bout de 3 ans, ils avaient atteint la 5e demeure. Alors que je connais, moi, des religieuses qui font oraison et qui n'atteignent la 5e demeure qu'au bout de 20 ou 30 ans. Pourquoi? Parce que l'orgueil est là. C'est l'orgueil qui empêche d'avancer. Parce que l'orgueil fait qu'on veut faire ses idées. Dans l'oraison, on n'a pas d'idées. C'est les idées de Dieu, c'est ce que Dieu, c'est la lumière de Dieu qui compte. Dans l'oraison, on fait la volonté de Dieu. Si notre volonté est fondue dans la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle, dès maintenant. Tu le fais, toi? Tous les jours? Le matin?
Tous les jours. Thank you.
Depuis deux jours, c'est bien. Depuis deux jours, tu fais oraison. C'est bien, il faut faire oraison. C'est très important. Quand on a été baptisé, on fait oraison. C'est peut-être plus facile lorsqu'on est enfant, et d'ailleurs c'est juste, en plus, de le faire avec les autres, en même temps que les autres. Alors, on a de la chance, parce que si on est plusieurs dans une famille, ou bien on a des amis, on va faire oraison ensemble, on va choisir un moment, on va dire pendant un quart d'heure, on va faire oraison. Ce sera une règle. Vous allez vous appeler les chevaliers de l'oraison, les hirondelles de l'oraison, les étoiles de l'oraison. Oui, parce que si on atteint, tu comprends, la quatrième, cinquième demeure, de la cinquième étape hein, de la transformation que fait la prière, avant d'être adolescent, il n'y a aucune crise d'adolescence. Ça n'existe pas, la crise d'adolescence, pour quelqu'un qui a atteint la quatrième demeure. Et puis en plus, c'est très agréable d'avoir atteint la quatrième demeure d'horizon de quiétude, dont on a parlé la dernière fois, parce que, j'allais dire, on devient extraordinairement fort devant les tentations. On est complètement, on ne peut pas être influencé. On ne peut plus être influencé par des gens qui vont vous mettre dans la tête des choses fausses, des choses qui vont vous pousser finalement, au bout d'un certain temps, au péché. Si quelqu'un qui a atteint la quatrième demeure, c'est ça qui est extraordinaire, surtout qu'il va passer à la cinquième, il reconnaît immédiatement, même si c'est une parole magnifique, humanitaire, bienveillante, chaleureuse, consolante et tout, il va tout de suite reconnaître le bruit du démon. Tout de suite. C'est ça qui est beau, quoi. Alors, qu'on ne me dise pas que l'oraison n'est pas faite pour les enfants. L'oraison est faite pour les enfants, bien sûr, et à ceux qui leur ressemblent. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui fait qu'on peut se fondre à l'intérieur de Jésus et à l'intérieur de Dieu, et que Dieu peut se fondre à l'intérieur de nous, qu'on fasse un seul morceau de cire ? C'est uniquement, quand on veut faire, uniquement, ne serait-ce que pendant un quart d'heure, suppose que tu fasses oraison un quart d'heure, ça dure un quart d'heure ton oraison. Pendant un quart d'heure, c'est uniquement l'amour de Dieu. Uniquement la volonté de Dieu, un amour d'une intensité incalculable, éternel, qui ne cesse de se multiplier. Il n'y a que ça. C'est chouette. Quand tu es plongé là-dedans pour la première fois, c'est la cinquième demeure. Quand tu es plongé là-dedans pour la première fois et que tu t'en rends compte, parce que Dieu t'a pris. Il a pris l'intérieur, il a pris ta prière, il a pris ton silence, il a pris ton admiration, il a pris ton désir qui est que cet amour-là, uniquement et rien d'autre, et que de toi il n'y ait rien qui vienne de toi. Rien qui vienne de ta volonté. Rien qui vienne de tes caprices. Rien. Aucun bruit qui vient de toi. Pas même le bruit d'un cheveu qui bruisse au vent. Tu ne veux pas tout ça. Tu ne veux que l'amour éternel de Dieu, être fondu comme cire et participer à l'amour de Dieu à fond. Et à un moment donné, Dieu te prend dans la prière et puis il te plonge à l'intérieur de lui. Et au lieu que ça dure, et puis tu es fondu en Dieu. À un moment, il te prend et de l'intérieur, tu es fondu à l'intérieur de Dieu. Et Dieu, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Et puis après, quand tu réalises, tu penses que ça a duré 2 ou 3 secondes, puis en fait, ça a duré un quart d'heure, 20 minutes. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Dieu est passé. Et ça, tu t'en rappelleras jusqu'à la mort. Et tu ne peux pas douter une seule seconde que Dieu est passé à l'intérieur de toi et t'a entièrement pris. Il t'a pris à l'intérieur de lui. Et puis après, il s'est caché. Dieu est passé. Tiens, le jour où tu arriveras, au jour où, à force de faire en raison tous les matins, tu vas te laisser prendre, et que Dieu va te prendre comme ça tranquillement. Tu ne te sentiras plus toi-même, parce que toi-même, tu ne t'intéresses plus à toi-même depuis longtemps. Toi, tu ne t'intéresses plus à toi-même, tu ne t'intéresses qu'à Dieu, alors il n'y a que Dieu qui t'intéresse. Ça fait tellement longtemps que c'est comme ça, que du coup, Dieu va te faire cette grâce. Eh bien, un chrétien, c'est quelqu'un qui a connu cette grâce. Celui qui n'a pas encore connu cette grâce, celui qui est baptisé, qui peut recevoir cette grâce, qu'il n'a pas encore reçue, mais qui va y parvenir parce qu'il est fidèle, parce qu'il veut petit à petit, justement, avoir les qualités du cœur, les qualités humaines, les qualités spirituelles qu'il faut pour ça. Donc, on avait vu la dernière fois, les trois fois précédentes, comment petit à petit, à force de transformation dans l'oraison, le Seigneur nous modelait, nous préparait, et d'un seul coup, à un moment donné, c'est lui qui va mettre le feu à cette belle préparation. Vous connaissez, elle est très connue, la parabole de Sainte Thérèse d'Avila sur le passage de l'oraison de paix, silencieuse et vivante, de quiétude, à l'oraison d'union parfaite de la cinquième demeure. Elle dit, voilà, vous voyez, c'est vers à soi. Il y a dans la nature un phénomène très curieux. Les vers à soie sont des petits vers comme ça. Vous les mettez sur des feuilles de mûrier. Vous les mettez sur des feuilles de mûrier. Et les feuilles, et elles se nourrissent des feuilles de mûrier. Donc elles mangent les feuilles de mûrier. Et quand elles font, quand les feuilles de mûrier se nourrissent bien le petit vers, et le petit ver, du coup, il pousse. Et il pousse, du coup, il pousse un fil à soie immaculé, très fin. Alors, c'est des feuilles de mûrier qui rentrent par la bouche, et par l'autre côté, et ça presse, et comme, parce qu'il a les sous-ventrières qui sont vraiment très, très, très remplies. Alors, il presse, et du coup, ça fait pssst, et ça fait un truc minuscule, très fin, presque invisible de soie. Immaculé. Et du coup, il s'enroule dans cette fil à soie. Et au bout d'un certain temps, ça fait un cocon, un énorme cocon. Et le petit ver, il est dedans et il s'est enfermé dans le cocon. À force de manger des feuilles comme ça, il est enfermé dans le cocon. Et finalement, il meurt parce qu'il n'y a plus rien à manger. Il s'est enfermé dans le cocon. Alors, il meurt. Et en fait, il ne meurt pas. Il se métamorphose. Parce que d'un seul coup, au lieu, puisqu'il n'y a plus il y a un phénomène dans le ver à soie qui fait que s'il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui sort. Du coup, il y a quelque chose qui fait que le contraire de la transpiration, si tu veux. Il y a quelque chose qui fait que tout ce cocon, tout immaculé, tout chaud, tout machin, qui provoque sa disparition en ce moment, eh bien, est aspiré. Ça rentre dans son corps et d'un seul coup, ça se transforme en papillon blanc extraordinaire. Voilà, ça, et Sainte Thérèse d'Avila prend cette parabole pour expliquer ce que c'est que la cinquième demeure. La cinquième demeure, c'est d'un seul coup, tu as disparu, et d'un seul coup, tu es transformé. Au lieu d'être un misérable ver de terre, qui est en train de mourir,
qui ne se voit plus, qui ne se regarde plus. C'est les ailes du papillon qui contemplent ce que tu vois. Et tout blanc, tout blanc. Tout immaculé, tout immaculé. Le jour où ça t'arrive, je vais te dire, le jour où ça t'arrive, eh bien, je t'assure, tu le vois. Hein. Tu imagines bien que petit vert, il le sait bien quand même. Quand il est là, tout rabougri, il est passé par les quatrièmes demeures, la purification de la sensibilité, c'est-à-dire des... il a beaucoup de mal, il a beaucoup de mal, il est très persécuté par le diable, très persécuté par son orgueil, très persécuté par ses péchés, très persécuté par tout ça. Et puis il n'arrive pas à prier, il n'arrive pas, il n'arrive plus, ou du moins quand il prie, c'est vrai qu'il arrive à prier beaucoup, il arrive à rester pendant une heure de prière, mais en même temps, il y a plein de trucs contraires dans sa tête, il y a plein de démons qui viennent, qui font sortir de lui des tas de choses horribles. Et donc il n'a plus envie de prier quelque part, parce que j'en ai marre, moi je passe une heure et dans ma tête, il n'y a que des trucs horribles, mais le fond du cœur est extraordinairement présent à Dieu, très apaisé. Et on ne voudrait pas passer de l'oraison. Parce qu'on sait que le fond du cœur, les sommets de l'esprit et la substance de l'âme, elles sont fondues à l'intérieur de Dieu. Mais tout le reste, non. Alors le démon se précipite sur toi, sur tout le reste. C'est très rigolo. On dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Exactement comme ces espèces d'instruments qu'on trouve quelquefois dans les salles de musculation, tu sais. On a bien vissé par terre une tige avec un ballon, tu vois. Alors ça, c'est bien fixé en Dieu, très 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 bien fixé en Dieu. Et du coup, tout le monde là qui rentre dans la musculation, c'est massacre. Et toi, tu t'en fiches, t'es bien inscrit en Dieu. Il n'est pas question que tu sois déraciné. Mais qu'est-ce que tu en prends? Qu'est-ce que tu en prends? Et en même temps, tu t'en fiches, et là, tu comprends, alors cette espèce d'enracinement, tu continues à prier, et le fond de ton cœur, c'est grâce à ça que tu détaches des choses qui dépassent la surface du sol, tu détaches de ta tige, c'est-à-dire tu te détaches de la recherche de toi-même, qu'on pense du bien de toi, qu'on te critique pas, que soit toi toujours qui passe le premier et pas l'autre, que soit tes idées qui passent en premier et pas celles des autres, tout ça tu t'en sépares. Et des consolations, et le ballon c'est quoi? C'est les consolations, c'est tu aimes bien les caresses, tu aimes bien les apparitions, tu aimes bien, je sais pas moi, tu aimes bien plein de trucs. Et tout ça, tu t'en détaches. Et tu détaches de toi-même, et tu n'es plus qu'attaché à ce qui en toi est attaché à Dieu. Alors du coup, c'est incroyable, parce que d'un seul coup, eh ben, la tige et le ballon se mettent de l'autre côté. Dans le cœur de Jésus. Le ver est transformé en papillon. C'est le passage de la cinquième demeure. C'est vraiment magnifique, la cinquième demeure. C'est beau, hein? Quand on est passé par la cinquième demeure, on a été suffisamment purifié à force de prier, à force d'avoir persévéré, à force d'avoir dit toujours oui, oui, oui au Seigneur, oui, je pardonne, oui, je crois, oui, j'espère, oui, je laisse le Saint-Esprit dire oui à ma place. Dans le cœur de Marie pour que la vie éternelle soit partout, soit victorieuse partout, dans le ciel, sur la terre. Je dis oui tout le temps, malgré tout ce qui m'arrive, malgré tous les désespoirs que j'ai, l'impression que j'y arriverai jamais à prier, l'impression que j'arriverai jamais à être délivré, que j'arriverai jamais à être délivré de mon orgueil, tout ça, de mon repli sur moi, ou de ma considération psycho-spirituelle, et du fait que je me tape le pouce sans arrêt. Alors, je dis tout le temps oui. Ah oui, et je veux surtout que ce oui soit le même oui que le oui du Saint-Esprit. Et que ça, petit à petit, à force, petit à petit, que mon oui du profond du cœur soit un oui éternel, soit un oui de la volonté humaine, et que ce soit la volonté de Dieu qui produise ce oui, c'est le oui du Saint-Esprit. À un moment donné, À certains moments dans la quatrième demeure, j'ai fait ça, je me suis battu pour m'installer dans ce oui, pour être fixé dans ce oui. Alors du coup, quelque part, c'est vrai, pendant, allez, 20 minutes, il y a quelque chose qui s'est recueilli, Dieu m'a aspiré, et il m'a recueilli, et il y a eu un recueillement qui s'est fait. Bon, vous avez compris, enfin. Allez, on va se recueillir dehors. Ce recueillement n'est pas très difficile à percevoir, nous l'avons vu la dernière fois. Le passage de la cinquième demeure rend ce recueillement encore plus facile à percevoir. Pourquoi ? Parce que les combats, j'allais dire, de la pensée, les combats de mes idées, les combats de mes réactions sentimentales, de mes réactions viscérales, etc., ont disparu dans la cinquième demeure. Parce que quand je fais oraison, au moment du Saint-Esprit, Dieu, du fond de mon âme, m'aspire tellement que même mon imagination, même ma mémoire, même mes sentiments, même ce que je ressens, tout ça est concentré sur la présence de Dieu. Tout ça est aspiré. Et c'est comme si tous mes sens internes, tout ce que je ressens, quoi, tout mon ressenti, est comme endormi, enfin, est comme aspiré, englouti dans la transformation que Dieu est en train de faire en moi. Et comme la transformation que Dieu est en train de faire en moi est spirituelle, je ne la ressens pas. Comme la transformation que Dieu est en train de faire en moi est surnaturelle, je ne la ressens pas, puisque je ne peux ressentir que des choses qui sont dans l'ordre sentimental, romantique, psychologique, et instinctif, etc., imaginaire, ou que c'est des choses qui correspondent à mon passé, mon angoisse, mon avenir, ou, voyez, ou ma mémoire blessée. Et évidemment, ta transformation surnaturelle transforme en moi pas du tout ces choses-là. Elle transforme en moi le monde spirituel qui a mon corps adapté à cette imprégnation. Vous voyez, ça correspond à ce fait que le ver à soie assimile, comme par inversion de transpiration, toute la soie qui a été tissée, et la métamorphose se fait d'un seul coup, comme ça, il est transformé en papillon. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et alors, effectivement, c'est assez facile. Il y a évidemment des étapes dans la cinquième demeure, on est d'accord. Il y a différents moments, mais c'est vrai que progressivement, lorsqu'on rentre dans l'horizon de quiétude, on arrive à une union parfaite. Une union parfaite avec Dieu. Cette union parfaite avec Dieu, c'est pas qu'elle soit agréable, c'est pas ça, mais c'est qu'elle est suave. C'est une quiétude suave. Parce que vous comprenez, quand vous avez une quiétude de sécheresse et de combat, comme dans la première, comme dans la quatrième demeure, avec quelquefois des trucs de l'imaginaire complètement dingue, hein, c'est la bûche qui crache tout son venin sous le feu, ça, comme on avait vu la dernière fois. Là, ici, c'est quelque chose de plus doux, de plus suave, de plus tranquille. Et c'est vrai que surnaturellement, pendant ces 57 minutes d'oraison, puisque je me suis fixé 57 minutes d'oraison, eh bien, la présence du passage de Dieu réalise une transformation libre. Il est libre de travailler dans toutes les parties spirituelles de mon âme. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la purification continue. Finalement, c'est plus la purification du concupiscible avec des trucs horribles pendant l'oraison, n'est-ce pas ? Un truc auquel j'aurais jamais pensé, n'est-ce pas ? Ou des purifications du racible avec... Non, c'est pas des... On n'a pas ça, mais on commence à rentrer dans une autre période. C'est comme ça qu'on la reconnaît aussi un petit peu. qu'on appelle ça la purification de la mémoire. Eh bien, je vais vous dire, c'est pas très agréable. C'est pas très agréable. Comme ça ne doit pas être très agréable pour le petit ver qui est dans son cocon, ne plus manger son fromage de gruyère, enfin ses feuilles de mûrier, et puis se trouver affamé, et puis sentir qu'il meurt. Il y a quelque chose qui meurt en vous, et en particulier, la chose la plus repérable, c'est la mémoire. Mais la mémoire, voyez, au sens où on l'entendait au XVIIe siècle, XVIe siècle, à l'époque de Saint Jean de la Croix, la purification de la mémoire, c'est tout ce qui fait que vous êtes habile, que vous maîtrisez parfaitement la situation. Vous contrôlez parfaitement la situation. Oui. Vous êtes libre, vous êtes autonome, vous êtes habile. Voilà. Et par exemple, on vous dit, ah, écoute, je peux compter sur toi, hein, tu vas me chercher un litre de lait. Hein. C'est important. Et puis tu dis, oui. Et puis, finalement, non, tu ne le fais pas, tu as oublié. Enfin, je ne sais pas pourquoi, tu as oublié. Enfin, ou alors, tu vois, tu je ne sais pas, il peut arriver des choses les plus invraisemblables dans cette période-là. Mais, je ne sais pas, au lieu de dire, tu es en train de présider la messe, et puis, au lieu de dire notre Père, tu dis, vous savez, Marie, ou je ne sais pas quoi. Enfin, tout le monde dit, ce prêtre, il est malade. On ne peut pas s'appuyer sur lui. Vous voyez, moi ça m'est arrivé une fois, j'étais en train de célébrer avec Daniel Ange, c'était à Fatima, je m'en rappelle. Il dit, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, maintenant nous osons dire. Et moi j'étais à côté, je dis, adieu le Dieu qui enlève le péché du monde. J'entends Magnus Dei. C'est extraordinaire. Devant la foule et tout. Mais bon, tu vois, on ne peut pas s'appuyer sur un type pareil. Et alors, on ne peut pas lui faire confiance. C'est que des maladresses. C'est vrai, on est désarmé. On n'est plus soi-même. On perd la mémoire de soi. C'est la mémoire de Dieu qui va remplacer. Vous comprenez? C'est très important de passer par ça. Il y a des gens qui disent, moi je ne peux pas supporter une chose pareille. Je ne peux pas supporter, c'est humiliant, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis désemparé, je suis désarmé, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a quelqu'un qui m'a acheté un sort. Mais non, personne ne t'a acheté de sort. C'est pas du tout quelqu'un qui t'a jeté un sort, pas plus que dans la quatrième demeure. Au contraire, c'est très très bien. Tu perds la mémoire de toi. Pourquoi est-ce que le Seigneur dans la transformation chrétienne fait ça? Parce que, bien sûr, c'est un petit peu embêtant pour les autres, hein, parce que du coup, tu fais des gaffes, tu les mets dans des situations très difficiles, etc. C'est très très pénible. Ça, c'est vrai. C'est très pénible. C'est pénible pour les autres aussi. Ça, c'est vrai. Mais enfin, ces périodes-là sont quand même très amusantes. C'est pas le mot. Mais elles ont un avantage. Elles sont humiliantes. Voilà. Très exactement. Elles sont très humiliantes. Mais du coup, tu as de moins en moins de mal. Dans la quatrième demeure, tu avais vu que rien ne pouvait venir de toi. Et dans la cinquième demeure, tu vois que tu es capable de rien. Et le résultat, c'est que ton abandon à l'action de Dieu devient parfaite, peut devenir parfaite. Le résultat, le deuxième fruit, c'est que du coup, tu ne t'occupes plus jamais de toi. Plus jamais. Et donc, c'est une des caractéristiques de la cinquième demeure, c'est que du coup, dans ta vie courante, tu ne t'occuperas jamais que des autres. Jamais plus, tes idées, tes impressions terminées. Ça ne t'intéresse plus. Tu as en haine ce qui vient de toi. Vraiment. Dégoût même. Et donc tu ne t'intéresses qu'aux autres. Et c'est à ce moment-là que naît le fameux sens de l'Église. C'est-à-dire, c'est là que je commence à comprendre ce lien que j'ai avec les membres vivants du corps mystique vivant de Dieu. Et je ne suis plus que toute engloutie à l'intérieur de ce qui peut transformer, aider et porter de l'intérieur l'ensemble des membres vivants du corps mystique vivant, du Dieu vivant. Et donc, ça y est, c'est à partir de la cinquième demeure que je deviens un fils de l'Église, que je fais partie de l'Église de Dieu. C'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire la convocation, l'unité de Dieu dans ceux qui ont accepté d'être choisis par Dieu, par la grâce, et d'être transformés par lui en une seule flamboyante et délicieuse dans différentes prières, amour, charité, union de volonté, etc. Et vous voyez, c'est pour ça que dans ces périodes-là, on trouve quelquefois des... Moi, j'ai vu des gens que j'aime beaucoup passer cette période qui correspond à l'union transformante de la cinquième demeure. Ils passaient 10, 15 ans. Mais sans passer aux fiançailles spirituelles, à la sixième demeure, directement, parce que, et du coup, ces 10-15 ans, c'est tout le temps un service pour, tout le temps de la charité, tout le temps, pas de la charité forcément, d'aller s'occuper des conférences Saint-Vincent de Paul, hein, c'est pas une charité d'activisme, c'est une charité surnaturelle du cœur. C'est de tout le temps, là, disponible, prêt, voyant ce qu'il faut faire, etc. Et avec une sollicitude pour que Dieu soit toujours présent, tout le temps. C'est à ça qu'on reconnaît la cinquième demeure. Purification de la mémoire, le passage de Dieu, ça, vous ne pouvez pas en douter une seule seconde. Ça se produit qu'une fois. Le passage de Dieu, et du coup, vous pouvez en avoir mémoire, et du coup, il y a la purification de la mémoire. C'est normal. Et la purification de la mémoire, bon, je n'ai pas tellement envie de rentrer dans les détails. Vous regarderez Sainte-Thérèse d'Avila qui en fait des descriptions tout à fait, ou le père Eugène, dont Marie-Eugène de la Sainte Face d'Enfant Jésus, qui a de très très belles pages sur la cinquième demeure, et qui d'ailleurs est celui, à mon avis, qui fait le mieux comprendre ce que c'est que la cinquième demeure. Et vous voyez bien que quand je vous dis ça, la prière de tous les jours, cette oraison où Dieu nous transforme et fait que Jésus peut enfin avoir, j'allais dire, une nouvelle incarnation de son immolation d'amour glorifié, fait que cette fois-ci le baptême a eu sa prise en nous. Et du coup, au bout d'un certain temps de charité, vous voyez, par exemple, dans la prière, quand on va prier, quand on va communier, quand on va dire notre Père, quand on va faire le signe de la croix, quand on va faire oraison, il faut bien le dire aussi, mais ça devient, j'allais dire, impensable que ce soit moi qui fasse oraison. Comme vous imaginez que c'est tout à fait pensable quand on est dans les premières demeures. Et bien là, c'est moi qui fais raison. Mais dans la cinquième demeure, ça devient impensable. C'est toute l'Église qui fait raison avec moi. Vous voyez, c'est la mémoire de l'Église, mais vous voyez, le mot Église, souvent, il y a tellement de haine sur le mot Église. Et on a tellement été habitués, nous, à entendre « Église égale haine » que quand je dis « mémoire de l'Église », je suis sûr que les trois quarts d'entre vous, ils n'entendent pas. C'est terrible à dire comme ça. C'est vrai, le démon a mis tellement de haine voltairienne de l'Église, tout ça, que depuis 4 siècles, c'est ça, depuis 3 siècles. Donc c'est sûr, on en est imbibé de ça. Mais l'Église, c'est l'amour. Dans l'Église, je ne suis que l'amour. C'est tout. Dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Et il n'y a que l'amour, et c'est ce oui, ensemble, qui fait l'Église de Jésus. Tous ceux qui ne vivent pas ce oui, ensemble, divin, surnaturel, éternel, ne sont pas l'Église de Jésus. Ils n'en sont pas. Et ne dites pas celui-là, il n'en est pas. Attention, là aussi. Si vous dites celui-là, il n'en est pas, c'est que vous n'êtes pas la cinquième demeure. Vous n'en savez rien. Mais c'est ça, Voltaire, de cracher sur la femme. Mais c'est ça, Voltaire, de juger si ce catho, ou ce chrétien, ou ce pas chrétien fait partie de l'Église. Laissez ça au Satan. C'est lui le Satan. Tandis que le Saint-Esprit, lui, non. Il faut que quand vous faites raison, eh bien, la prière de celui que vous auriez jugé, si vous étiez resté humain déchu, celui que vous auriez jugé, c'est son oui qui se joint à vous, qui vous aide peut-être le plus. Et vous vous unissez à tous ceux qui sont l'ordre de la terre écrasés par les purifications de la sensibilité ou de la mémoire ou de l'esprit, prient quand même et font relance, redonne, laisse Jésus crucifié redonner ce oui à travers eux. Un caché total, se laissant accuser de tout à la place des autres.
Alors, c'est là qu'apparaît justement ce fait que vous devenez corps mystique. C'est ça qui est beau, parce que du coup, vous allez pouvoir entrer dans les 6e et 7e demeures où effectivement, j'allais dire, tout ce qui est incarné sur la terre, tout ce qui est incarné dans la création, tout ce qui est incarné dans votre propre union au Christ, va pouvoir recevoir la dite transformation. Vous voyez, la mise en place du corps spirituel. C'est une opération divine qui relève des 6e et 7e demeures. De l'union transformante. Et si nous vivons avec Marie, si nous vivons avec l'Immaculée, si nous vivons la prière avec elle, si c'est elle qui prie en nous, vous pensez bien que tous les sentiments, petit à petit, cachés même à nos yeux, ces transformations progressives, mais, j'allais dire, irréformables, ne cessent d'opérer les unes après les autres. Les unes avant les autres, les unes après les autres, selon un ordre de sagesse qui appartient à l'harmonie de l'Immaculée Conception. Dans son lien d'amour avec nous, et dans le lien d'amour qu'on a avec elle. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on est dans le centre de gravité du passage de Dieu, c'est-à-dire la cinquième demeure, celle de la grâce à l'état pur, cette grâce substantielle, alors à ce moment-là, c'est sûr, Marie et nous ne sommes qu'un. Et l'Église et nous ne sommes qu'un. Parce que vous ne pourrez jamais séparer Marie et l'Église. Jamais. C'est strictement impossible. Vous ne pourrez jamais séparer ce qui se passe à l'intérieur de Marie et ce qui se passe à l'intérieur de l'Église. C'est strictement impossible. Ah, il y a des injustices. Comment ça, il n'y a aucune injustice. Jésus n'a pas subi l'injustice. Jésus a subi la passion d'un amour éternel qui écrase toute injustice. Qui absorbe toute injustice, qui fait disparaître en lui toute injustice. En Jésus, il n'y a aucune injustice. En Jésus, il n'y a pas d'injustice. Pour ceux qui sont en dehors de Jésus, oui, ils voient l'injustice, parce qu'ils sont en dehors de Jésus. Mais en Jésus, il n'y a pas d'injustice.
En Jésus, il n'y a que de l'amour, et son amour est une passion. Dans la cinquième demeure, l'amour surnaturel est une sollicitude perpétuelle. Mais il n'y a pas d'injustice. Parce que ce qui arrive, c'est quelque chose de très extraordinaire. C'est Jésus subit sa passion. Jésus a besoin, voyez, d'exprimer cette passion, ce oui de Gethsémani, ce oui de la volonté humaine qui vient se fondre et mourir dans la volonté du Père. Il ne faut pas l'oublier, Jésus a beaucoup souffert. Sa volonté humaine ne voulait pas. Même si c'est une volonté humaine absolument parfaite, entièrement irriguée par l'union hypostatique, et parfaitement glorifiée par sa vision béatifique à Gethsémanie, mais même avec ça, sa volonté humaine ne pouvait pas accepter. Et il a fallu qu'il y ait cette passion, il a fallu qu'il y ait cette cinquième, sixième et septième demeure de Jésus à Gethsémanie pour qu'il remette sa volonté humaine, j'allais dire, toute agonisante, voyez, avec ces quatre sangs qui sortaient de tous les côtés, pour plonger dans la terre. Et il a remis sa volonté humaine, toute bénie, toute parfaite, à la volonté du Père. Et il s'est foutu dans la volonté du Père. C'est ça. Et bien ça, c'est pas une injustice. C'est pas une injustice. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. Et nous, quand on est dans la cinquième demeure, nous ne vivons pas ça comme une injustice. Nous vivons ça comme de l'amour de Dieu à l'état pur. Voilà pourquoi... Quand on arrive à cette demeure de la grâce, nous ne vivons rien comme une injustice. Nous vivons une chose, non pas avec indifférence, parce que ça, ce serait du stoïcisme, oui, ce serait du tibétain. Hein. Mais nous ne vivons pas les choses avec indifférence, non pas du tout. Nous vivons les choses avec amour, avec ce oui, et avec cette gratitude de Jésus qui peut continuer à vivre cet amour éternel dans le corps mystique vivant de son Église vivante. Vous voyez ? Et là, il y a quelque chose qui fait que je crois que c'est vrai, je vais reprendre. Il n'y a pas d'indifférence au mal. Je ne crois pas que ce soit ça. L'indifférence au mal ne me paraît pas suffisante, vous voyez, pour définir cet état de la grâce à l'état pur quand Dieu prend possession dans sa volonté de ma volonté. Que ma volonté se fonde dans la volonté de pour flamboyer dans la transformation surnaturelle de l'amour. Ce n'est pas une indifférence, c'est une gratitude. Bref, c'est une gratitude. Et Saint Jean de la Croix, Saint Thérèse d'Avila, tous les saints d'ailleurs disent que quand nous reconnaissons que nous sommes véritablement dans cette transformation chrétienne, ça y est, nous y sommes installés, c'est-à-dire en fait on a dit oui à Dieu, quoi. Jusque-là on n'avait pas dit oui à Dieu, pas vraiment, on avait dit oui à Dieu pour les sucettes, mais pas pour le reste, quoi. C'est qu'on se proche toujours pour la première communion, oui, la première communion, mais c'est pour avoir le parrain qui lui donne, 200 euros aussi, hein, et papa qui lui dit, voilà, et si ça fait la première communion, tiens, voilà. C'est pour ça que c'est la première communion. Vous voyez, c'est une caricature, ça. Mais n'empêche que, tant qu'on n'a pas atteint, eh bien, on est dans la même situation. Oui, on veut bien, tiens, parce que finalement, c'est agréable, on trouve la paix, etc. On trouve une famille, je ne sais pas comment dire, on peut trouver des sucettes, des constellations, des apparitions, des visions, enfin, plein de trucs, quoi. Et puis, communier, tellement agréable, communier à la messe. Et puis, d'être en état de grâce, recevoir l'absolution, vous rendez compte, être libéré des péchés. C'est pas génial, non? Alors, c'est que des cadeaux, quoi. Et, mais Seigneur, il est comme ça, il n'y a pas de problème. C'est pas qu'il ne faut pas, hein, il le faut. Il ne faut pas critiquer l'enfant qui fait la première communion et puis qui reçoit les 200 euros. Moi, je ne vois pas pourquoi je critiquerais ça, enfin. C'est très, très bien. Mais à un moment donné, il faut dire oui. Le oui de Dieu, il est là, vous voyez. Alors, c'est ce qui va se caractériser par une espèce de vous le reconnaissez tout de suite quand ça vous arrive, ça. C'est quand vous avez, du coup, envie de vous pas envie, mais vous êtes porté à vous sacrifier, quoi. Vous êtes porté à aller vers les autres et vous êtes porté aussi à faire pénitence. À faire beaucoup d'astèse. Beaucoup de sacrifices, comme on dit quelquefois. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est important, hein, très important même, d'avoir un père spirituel à partir du moment où on est dans la cinquième demeure. Parce qu'il va arriver dans la cinquième demeure qu'à partir du moment où notre mémoire est purifiée et on rentre dans la purification de la mémoire, c'est que vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes désemparé, vous ne pouvez plus rien faire par vous-même et vous ne savez plus où vous en êtes. C'est quand même un truc, une période très incroyable. Et puis, il va vous arriver aussi des visites vraiment surnaturelles, pour le coup. Ce ne sera pas de simple consolation, de simple apparition comme ça. Vous voyez ? Il va vous arriver des véritables... Il faut vous y préparer, des véritables... effusions surnaturelles. Et puis aussi de véritables écrasements. De la mémoire, surtout. Quand la mémoire a baissé et écrasée, vous ne savez plus où vous en êtes. À certains moments, vous ne savez plus ce qu'il faut faire. Alors, et puis vous ne savez plus. Bon, alors du coup, c'est vrai, le père spirituel, il est là. Il dit, mais si, continuez, c'est très très bien ça. C'est excellent. Ou alors, non, ne croyez pas que ça, c'est une apparition, ça, non. Vous voyez ? Parce que ne croyez pas que vous êtes à la cinquième demeure. Non, ne croyez pas ça, parce que aucune envie de faire pénitence. Ah, ça, c'est signé. Aucune envie de faire pénitence, vous n'êtes pas à la cinquième demeure. Quelque part, j'aime bien souffrir. Bizarre aussi, ça. Cinquième demeure, autre caractéristique, vous voyez. C'est bizarre, je suis dans un état de souffrance, mais c'est une langueur, comme quelqu'un qui est blessé à mort par un amour fou, quoi. Très profond, très profond, très profondément fou, et cet amour est follement fort. Et donc vous êtes dans une espèce de langueur, souffrance, mais vous aimez souffrir. Parce que cette souffrance n'est pas une souffrance inutile, c'est une souffrance de très grand amour. Et du coup, vous aimez souffrir. À la limite, pourquoi c'est pour ça qu'on va faire pénitence? Parce que la pénitence est une petite souffrance, mais elle est volontaire, vous voyez, enfin elle est volontaire. Elle coopère à une grâce, à un appel, et grâce à cette nouvelle souffrance un petit peu volontaire, et tous ces pénitences que vous savez faire, hein, par exemple, je ne sais pas quoi, hein, et ben, vous allez mettre une séparation avec quelqu'un que vous aimez, mais que vous sentez que le Seigneur vous demande de ne plus voir. Pas du tout parce qu'elle est perverse, mais parce qu'il y a un attachement qui n'est pas juste. Pas forcément parce que cet attachement n'est pas malsain, un homme peut être parfaitement sain, mais un petit fil, quoi, un berserien. Alors vous allez faire pénitence. Vous allez faire pénitence, ça va ouvrir du coup une certaine blessure du cœur, même toute petite, mais c'est un peu comme une plaie. Si vous remuez la plaie fait souffrir davantage. Voyez ? Là, une petite pénitence vous fait revenir à cette souffrance d'amoureuse que vous aimez bien. Voilà une autre caractéristique. Hein, et du coup, la souffrance ne vous fait plus peur, au contraire, et n'est plus un malheur, au contraire. Et si en fait la vérité, c'est comme ça. Alors, comme ça se termine, je vais vous lire un petit passage de Saint Jean de la Croix qui écrit les 10 degrés de cet amour si fort. Parce que vous voyez, il y a une montée dans l'embrasement de cet amour profond. Je disais, vive flamme d'amour de Saint Jean de la Croix. Peut-être qu'à la fin, on lira des flammes d'amour, si vous voulez, en le commentant un peu. C'est extraordinaire. C'est était dans le cachot, au sommet de la souffrance humaine la plus terrible, la souffrance spirituelle la plus terrible, la souffrance religieuse la plus terrible. C'est indescriptible ce qu'il avait vu. Indescriptible, la souffrance physique aussi, la plus terrible. Parce que quand vous êtes crucifié, ça dure 10 heures. Mais vous savez, ça dure longtemps, lui. Et c'est là qu'il a écrit « Vive flamme d'amour ». C'est extraordinaire. Mais dans la montée donc, du Carmel, à la fin de la nuit obscure, il dit voilà. Il va décrire les degrés de l'échelle de l'amour surnaturel constant. Il y a 10 degrés par où petit à petit l'âme monte et se fond à l'intérieur de Dieu et par laquelle Dieu la fait monter, la prend et la transforme. Le premier degré correspond à la décision, au choix libre, pris et exécuté de ne plus offenser Dieu. Et pour mettre fin à tout acte qui offense Dieu, qui abîme Dieu en nous, il faut recevoir un autre amour meilleur. C'est ça. Alors, Dieu envoie sur croix l'amour pour faire qu'on puisse ne plus jamais l'offenser. Le deuxième degré fait que l'âme, avec ce nouvel amour, cherche Dieu sans arrêter. Incessamment. Elle le cherche partout. Elle le voit partout. En tout ce qu'elle pense, aussitôt elle pense à l'amour de Dieu. En tout ce qu'elle dit, dans toutes les affaires qui se présentent à elle, aussitôt, elle pense à l'amour de Dieu. Et c'est avec lui qu'elle sans forcer, hein, sinon ça lui abîme la santé, hein, sinon ça devient si. Le troisième degré de cet amoureux, c'est celui qui fait que l'âme se laisse travailler par l'amour de Dieu lui-même, et c'est l'amour de Dieu lui-même qui la travaille, lui donne de la chaleur pour qu'elle ne défaille pas. Parce que l'amour surnaturel qui est en elle pour Dieu ne suffit plus. Et elle finit par défaillir, alors c'est l'amour de Dieu lui-même qui travaille en elle pour qu'elle ne défaille pas. Pour qu'elle ne défaille pas. Défaillir, c'est l'amour l'époque qui dit vrai, vous défaillir, ça veut dire vous n'avez plus de force, quoi, vous perdez la santé. Ici, le grand amour qu'elle porte à Dieu la met en même temps dans une peine, une souffrance, une terrible, parce qu'elle a l'impression que ce n'est pas elle qui l'aime. Mais c'est l'amour de Dieu, non, parce que c'est l'amour de Dieu qui a pris le relais en elle de son propre amour surnaturel pour Dieu. Alors, tu as l'impression, dans ce troisième degré, qui correspond au fond finalement à ce que je vous ai expliqué la dernière fois sur la quatrième demeure, qui correspond en fait, tu as l'impression que toi tu n'aimes pas Dieu. Que tu plains de trucs qui ne sont pas beaux, quoi. Voilà. Et donc l'âme, dans ce troisième degré, se verrait assez consolée si Dieu permettait qu'elle meure tout de suite, comme ça, elle ne serait pas pire. Il lui semble que sa vie est inutile. Le quatrième degré de cette échelle d'amour est celui où est en train de naître à l'intérieur, dans la vie intérieure de celui qui est uni à Dieu, une espèce de souffrance continuelle d'amour pour lui. Et elle ne lâche jamais cette souffrance-là. Le cinquième degré, l'âme a une telle véhémence de tenir étreint l'amour de Dieu en elle et de s'unir tout le temps, de s'unir à cet amour, que le moindre délai où elle ne peut pas s'unir à cet amour-là lui paraît être trop long. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit, c'est Saint Jean de la Croix? Le cinquième degré, c'est qu'il y a une véhémence pour tenir étreint l'amour de Dieu. Mais
Ça va venir, mais c'est pas maintenant, vous voyez, dans l'horizon en tout cas. Bon. Et là, vous trouvez que c'est trop long, ça vous fâche, je peux dire, ça vous ennuie. Voilà. Et comme il est frustré, c'est soupir, l'intérieur soupire, et souffre, et a l'impression de défaillir, tout en étant à l'intérieur. Le sixième degré, dans le sixième degré, on a ce soupir, ce désir de Dieu, mais il est beaucoup moins languissant, beaucoup moins ennuyeux, beaucoup moins désespérant, il est plus frais. C'est un désir plus frais, c'est un désir plus léger, moins assaillant, moins. Et du coup, quelque part, il y a une brise, quelque part, qui fait que petit à petit, comme la feuille, on sait à peu près trouver le vent, et malgré tout, finalement, se trouver dans l'amour de Dieu quand on le veut. Parce qu'ici, l'amour de Dieu qui l'a fortifié, elle l'a fait être tellement légère qu'elle vole assez librement à la présence de Dieu. C'est ce que dit le psaume 118, « Seigneur, quand tu as dilaté mon cœur, j'ai couru, j'ai volé à la brise de tes commandements. » C'est beau ce passage, cette interprétation de Saint Jean de la Croix, du psaume 118. Le septième degré de cette montée dans l'amour, « anardit l'âme avec véhémence. » L'intériorité devient pleine de vigueur, de... Comment dire, l'âme, elle voudrait avoir des unions avec Dieu presque glorieuses, celles de la résurrection, vous voyez. L'intérieur de l'âme, le Seigneur fait désirer des choses qui ne sont pas de la terre, mais qui sont de la résurrection, et qui sont un baiser de sa bouche, etc. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Le huitième degré d'amour fait que l'âme est capable de se laisser étreindre par Dieu avec une liaison indissoluble et qui fait que vraiment, ça y est, elle a été entièrement prise par Dieu, Dieu lui a accordé cette grâce, il est passé, et ils sont indissolublement liés l'un à l'autre, corps, âme et esprit. Le neuvième degré d'amour fait que l'âme brûle avec suavité. Ce degré, c'est celui des parfaits, parce que les parfaits, déjà, ardent, c'est-à-dire rayonnent chaleureusement et font suaver les parfums de l'union avec Dieu, avec suavité en Dieu, parce que cette saveur suave et délectable leur est causée par le Saint-Esprit. Et le dixième et dernier degré de cet effet d'amour secrète fait que l'âme ressemble parfaitement à Dieu, puisque c'est Dieu qui vit en elle, et elle ne vit plus. Aussitôt après qu'après être monté dans ce degré de vie, d'union d'amour avec Dieu au neuvième degré, c'est comme si elle sortait du corps, c'est comme si elle sortait de la chair. Ceci, ils sont peu nombreux, vu qu'ils sont déjà très purifiés par l'amour glorieux et éternel de Dieu, n'entrent pas au purgatoire. Et c'est pourquoi Saint Matthieu a dit, bienheureux les cœurs purs, ils voient Dieu. Vous voyez ? Et cette très belle montée des 10 degrés de l'amour de Dieu dans l'horizon de la quatrième et de la cinquième demeure de Saint Jean de la Croix, la montée du Carmel, est belle, vous voyez, parce qu'elle nous fait comprendre qu'en effet, c'est nécessaire que nous allions jusqu'au degré des parfaits, parce que ce serait vraiment une très piètre chose si nous devions, après ce passage dans notre vie, aller au purgatoire. Ce serait lamentable. Il faut donc bien aller jusqu'à ce degré d'union d'amour avec Dieu, de manière à ce qu'on n'ait pas de purgatoire à faire, mais ce n'est pas pour ne pas faire de purgatoire. Parce que ce qui nous arrive à nous, on s'en fiche complètement. Mais c'est parce que pour nous, c'est Dieu qui compte.
c'est le Saint-Esprit, c'est l'amour. Attention, toujours pareil, catéchisme élémentaire de la prière, il ne faut pas croire qu'on est arrivé au cinquième demeure si facilement. Il faut d'abord butiner, il faut d'abord manger les herbes, je tiens les feuilles de mûrier. Il faut d'abord butiner comme une abeille pour faire sa cire. L'hérésie qui dit « tout le monde est appelé à l'horizon contemplative surnaturelle de l'union de l'horizon passive et surnaturelle, quatrième, cinquième demeure », c'est une hérésie qui s'appelle le molinisme, la quiétisme. Non, l'horizon, on prend son temps. Oui, ça, oui. On prend du temps tous les jours pour ça, oui. Mais il faut être rempli de Dieu dans l'horizon. Et il faut être rempli de Dieu dans l'horizon. Et au début, je m'excuse, mais pour être rempli des commençants, nous sommes tous des commençants, n'est-ce pas? Et ici, nous sommes tous des commençants. Donc, aucun problème. Personne ici qui pense qu'il est arrivé au quatrième ou au cinquième demeure, hein, sinon qu'il vienne trouver le père exorciste du diocèse, voilà, ce genre de... Mais bon, peut-être après tout, parce qu'il y a des touches quand même de temps en temps, mais quand même, donc le soir, vous vous endormez et vous faites une méditation. Hein. Et sur Jésus, hein, il faut vraiment que vous compreniez Jésus. Il faut vraiment que nous comprenions Jésus, il faut vraiment que nous méditions, que nous découvrions ce que Jésus a vécu, surnaturellement, divinement. Il faut vraiment que nous plongions, que nous contemplions, il faut qu'on assimile tout ce que j'ai aimé Jésus, le voir Jésus, comprendre que Jésus est là. Oui, ça c'est sûr, mais le soir, comprendre de l'intérieur ce que de l'intérieur Jésus a vécu. À tel moment. Quand Élisabeth a dit « J'ai béni entre toutes les femmes », ce que j'ai vécu à ce moment-là, de l'intérieur. Il faut entendre ça, vous voyez, il faut méditer ça, il faut creuser, il faut savoir, il faut rentrer, il faut connaître, il faut méditer, il faut vraiment assimiler et vivre de ça. Vous voyez, il faut beaucoup, beaucoup de méditation. Il faut que Jésus et nous soyons très intimes. Si on dit, ouais, j'y crois, etc. Oui, c'est pour ça que c'est les méditations du rosaire. Regardez, finalement, c'est beau ce qu'on a vécu ici. On a vécu d'abord une année avec la méditation du rosaire, une année avec la Sécumina, une année avec les vertus, une année avec l'Apocalypse. Si vous regardez bien, ça correspond assez bien à la montée qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, vous voyez. L'année de la méditation, pour que Jésus et moi, on puisse rentrer dans une unique contemplation, une oraison. Vous voyez, c'est la première demeure, c'est normal. Et bien du coup, on se détache du péché mortel, catéchumène. Pour rentrer dans la grâce, si on est péché mortel, ce n'est pas détaché du péché mortel, deuxième demeure, on ne peut pas avoir le baptême, c'est strictement impossible, puisque le baptême c'est pour nous donner la grâce. Mais celui qui fait le péché mortel perd la grâce. Alors du coup, il faut avoir le vertu, troisième demeure. Et voilà. Il faut travailler là-dessus, il faut être humble, chaste, patient, loyal, il ne faut pas être un pyrocard. Vous voyez, pas vicieux, etc., bien sûr. Hein, il ne faut pas avoir les 132 vices, il faut avoir les 88 vertus. Et oui, et surtout la foi, l'espérance, la charité, les dons du Saint-Esprit. Voilà. Donc on a fait la troisième année, hein. La quatrième année, l'Apocalypse. Mais oui, parce que l'Apocalypse, c'est vraiment la révélation. C'est Dieu lui-même qui commence à agir. La paix vient de Dieu, Jérusalem. Et voyez, c'est important de comprendre que tant que ce n'est pas Dieu lui-même qui a pris toute sa place, dire je vais faire oraison pendant 57 minutes et puis maintenant, stop. Je ferme la goupille ici, stac, je ferme la goupille du mental, stac, je ferme la goupille de l'imaginaire, stac, je ferme la goupille. Non, puisque tu n'es pas purifié. Tu peux fermer la goupille, c'est pas ça qui va purifier. Il faut que tu te remplisses de Jésus, que tu te remplisses de cette contemplation de ce que Jésus a fait, que tu comprennes de l'intérieur les mystères surnaturels et divins.
ils sont incompréhensibles à un être humain sans la grâce. Hein. C'est vrai, il faut que tu rentres dans cette méditation contemplative, la première demeure. Puis après, il faut que tu rentres dans l'expérience surnaturelle d'amour, de charité, vraiment divine et surnaturelle de Jésus, dans la deuxième demeure, avec beaucoup d'union affective. Puis après, il faut que tu rentres dans cette paix, ce recueillement, cette humilité, cette disponibilité, cet accueil, cette politesse. Et la troisième demeure, les vertus. Puis après, il faut que tu rentres, que vous voyez, dans la possibilité du Saint-Esprit, de se révéler au don du Saint-Esprit, de me faire savourer quelque chose qui est au-delà de ce que je ressens, dans l'horizon de quiétude, et don du Saint-Esprit. Je me tiens à ta porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai. Je prendrai mon repos avec lui et lui au-dedans de moi. Jérusalem. L'île dispensable commence. Alors après, eh ben oui, on peut rentrer dans la vie chrétienne. C'est-à-dire, on devient un membre vivant de l'Église de Jésus, un membre vivant du corps mystique vivant, Jésus vivant, corps, âme et esprit. Et c'est la cinquième demeure. Et cette cinquième demeure ne termine pas le chemin, puisque du coup, il va falloir rentrer dans la purification de l'esprit, la purification de la foi, c'est-à-dire des purifications qui vont permettre à tous ceux qui n'ont pas fait ce parcours que j'ai fait, que nous avons fait ensemble avec Jésus, avec le Saint-Esprit, de le faire à leur place, et d'être des rédempteurs, et que le monde soit sauvé. Et donc c'est l'union des parfaits. Et tant que cette union des parfaits n'est pas réalisée, je ne peux pas voir Dieu, je ne peux pas rentrer dans la vision béatifique. Est-ce que ça va? C'est pas trop hautement théologique, pourtant j'essaie de simplifier, hein, bien sûr. Vous savez l'amour que j'ai de la simplification. Voilà. Nous verrons la prochaine fois la sixième demeure de fiançailles.